Un mois plus tard, je vais à l'entraînement et je trouve ce garçon lent, traînaillant, les yeux rouges. Je m'inquiète, je vais voir le médecin, je lui dis, écoute, est-ce que ce garçon boit pas un petit peu d'alcool? Je trouve qu'il a changé dans son comportement, il est moins efficace, il a les yeux rouges, etc. Est-ce que vous avez fait les prises de sang nécessaires? Et on me répond, ah ben non, parce qu'il fallait signer vite le contrat, et effectivement, ça l'a oublié.
D'accord.
Et j'ai donc demandé à ce qu'on efface, et là on a découvert qu'il avait hépatite A et hépatite B. Alors on peut toujours dire que c'est aussi de ma faute. Hein? Voilà.
Ouais,
Voilà. Comme beaucoup de choses.
Alors, des questions par rapport à la nomination de John Toshack, que certains supporters ont estimé un peu improvisée. Ils ont été surpris de voir débarquer donc, ce technicien gallois. Là encore, donc sur ce choix, il s'est fait à l'époque.
Je ne le regrette pas d'abord, parce que si vous voulez, il y avait le feu à Saint-Étienne après le départ de Robert Nazaret, cumulé avec l'affaire des faux passeports. Il faut remettre ça dans le contexte, comme ça fait beaucoup. Hein. Et qu'il fallait qu'on prenne une décision. Et vous savez très bien qu'en cours de saison, très souvent, quand vous trouvez un entraîneur, c'est un bidon, ou c'est un mec qui a été viré par déjà deux ou trois présidents. Donc il y avait ce Toshack dont on nous avait parlé, qui avait un parcours quand même vraisemblable. Il avait été entraîneur du Real de Madrid, il avait fait monter des clubs de cinq divisions. Et John Toshack restera pour nous, pour moi en tout cas, restera un bon souvenir. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'était pas venu pour gérer une catastrophe. Et quand il a vu dans quel état le club était, il s'en est allé.
Alors justement, des rumeurs contradictoires circulent au sujet de son départ. Selon certains, il n'aurait pas été payé. Pour d'autres, il aurait au contraire vécu aux frais de la princesse, entre guillemets, lors de son passage à Saint-Étienne. Ce serait Gauberger à la Poularde, où il aurait disparu avec son véhicule de fonction. Donc qu'en est-il exactement?
Non. Il n'y a rien de tout ça. Effectivement, il y avait des retards de paiement parce qu'on avait des problèmes financiers considérables à l'époque. Et lorsque le président là, du club espagnol, comment s'appelle-t-il, qui est venu le récupérer, hein, je connais que ça, enfin, vous le vérifierez, est arrivé, il m'a demandé que Toshack souhaitait partir. Je lui ai dit, mais nous lui devons une somme, et cette somme, nous ne la paierons pas, bien évidemment, s'il s'en va. Et le club m'a dit, ben, c'est nous qui la payons, et donc il lui a été payé, et on a eu une compensation par le club espagnol.
Alors, pensez-vous que si on l'avait gardé jusqu'en fin de saison, le maintien aurait été assuré, aurait été possible?
Oui.
Alors justement, on sait qu'après la page Toshack, donc il y a eu la nomination de ce duo improbable, donc Rudy Garcia, Jean-Guy Wallem. Là encore, est-ce que c'est un choix que rétrospectivement vous regrettez, ou c'était un choix dicté par l'urgence et il fallait trouver une solution de la dernière chance en quelque sorte?
Ça, c'est une vraie connerie de ma part. Voilà. Simplement, comme vraiment, il faut se souvenir quand même de cette période complètement folle, les joueurs sont venus, après le départ de Toshack, me dire qu'il n'était pas question qu'on prenne encore un autre entraîneur, ça faisait le troisième dans l'année, et que dans ces conditions, eux voyaient très bien Rudy Garcia et Wallem. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Soler, on n'était pas tellement d'accord, et on s'est dit, et dans le fond, si on tentait cette solution, ça a été un désastre. Ça, c'est ma connerie, mais la plus énorme que j'ai commise, parce que ça a été terrible. C'était deux garçons qui font la démonstration aujourd'hui qu'ils ont.
Voilà, c'est ce qu'on allait vous demander, c'est que depuis.
Non, mais ils font la démonstration l'un et l'autre qu'ils ont de la qualité. À l'époque, c'était deux jeunes hommes, deux jeunes coqs, qui ont passé leur temps sur les 3 derniers mois à se livrer bataille l'un contre l'autre et qui ont involontairement, mais avec certitude, ramené le club là où il est parti en fin de saison.
D'accord. Alors ensuite, le club est tombé en Ligue 2. Donc là, il y a eu la nomination d'Alain Michel qui, là encore, a surpris un certain nombre de supporters parce qu'il n'avait pas forcément d'expérience du très haut niveau. Là encore, avec le recul, est-ce que vous estimez que c'est un choix un petit peu malheureux ou qu'au contraire, il fallait tenter cette aventure pour tourner la page et repartir sur de nouvelles bases?
Oui, on peut dire ça. Alain Michel venait d'amener Grenoble, hein, quand même.
Oui, c'est vrai. Il avait quand même un parcours bon, qui était avec des résultats.
Il venait de l'amener de loin à la deuxième
Mais bon,
division.
vous savez comme moi que Grenoble bon, n'est pas forcément comparable à Saint-Étienne en termes de statut.
Il avait un bon profil, il avait un bon profil de technicien, c'était un bon éducateur, Sûrement que ça fait partie, si vous voulez, de la période faible d'Alain Bompard, 2000-2001. Ça, c'est un mauvais choix.
D'accord. Alors, en 90...
Je me suis rattrapé, parce qu'il n'est pas resté d'abord longtemps, et qu'ensuite, c'est moi qui suis allé chercher Frédéric Antonetti.
Voilà, tout à fait. Et justement, est-ce que vous, quand vous évoquiez ce match-là terrible contre Guignon, où Sainté a vraiment touché le fond, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, bon, est-ce que Frédéric Antonetti est vraiment l'homme de la situation, ou est-ce que vous avez hésité à vous en séparer, ou au contraire, très tôt, vous avez dit, bah, ce sera mon dernier entraîneur, et voilà, je le sens bien redresser la situation.
Mais je l'ai toujours dit. Ouais. Vous savez, il est un point sur lequel je me trompe assez rarement. C'est sur les hommes. Antonetti, je pouvais imaginer que c'était un bon entraîneur ou un très bon entraîneur, et seul l'avenir le dirait. Mais par contre, au bout de quelques heures, je savais que c'était un homme exceptionnel. C'est un monsieur, Frédéric Antonetti. Et je vais vous dire, dans le monde du football, à chaque fois que vous avez une très très forte personnalité, il y a un jour ou l'autre des résultats. Frédéric Antonetti, je savais que ce serait le dernier entraîneur d'Alain Bompard.
Alors en 97, vous avez doublement sauvé le club, à la fois financièrement et sportivement. En 2003-2004, donc à votre départ, le club est à nouveau sportivement en Ligue 2. Au niveau de vos fonds propres, quel a été pour vous l'impact financier de vos 6 années de présidence au club, demande un supporter, qui me demande d'ailleurs de vous chatouiller la plante des pieds si vous ne répondez pas.
Bon, je veux bien répondre, mais je n'ai pas compris la question. Il veut savoir quoi?
Oui, par rapport à l'impact financier, donc est-ce que quand vous avez revendu le club, vous vous y êtes retrouvé financièrement? Est-ce que par rapport à votre arrivée au club, vous avez fait des bénéfices? Je pense que c'est là où il voulait en venir.
Bon, alors écoutez, c'est très simple. Impôt payé, j'ai récupéré avec mes amis la mise de ce que nous avions mis. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que ça a dû nous laisser 50 000 euros chacun supplémentaires. Sur 7 ans de travail non payé, c'est pas énorme.
D'accord, hein? J'en conviens. Alors, pourquoi avoir choisi de vendre le club alors qu'il était en train de renaître? Donc, vous évoquiez le fait que Antonetti a réussi donc à redresser le club et que vous auriez pu, en restant au club, sans doute effacer la tâche indélébile qu'on évoquait tout à l'heure des faux passeports.
Bien sûr, oh, bon, écoutez, l'histoire, c'est la bonne question que j'attendais.
Ah, les autres n'étaient pas bonnes jusqu'à présent, non. Elles étaient moins...
Elles étaient toutes bonnes, mais celle-là, je vais justifier pourquoi je suis parti. À l'époque, parce qu'on vient de vivre 3 années de deuxième division, et que vous savez que les droits de télévision ne sont pas les mêmes, et que comme nous avions des contrats de 3 ans, 4 ans pour certains joueurs, on a dû payer très très lourdement des salaires de deuxième division pour des joueurs qui étaient, pour certains, à peine des joueurs de national. Et il nous manquait 1,5 million d'euros à l'époque pour faire le bilan au mois de juin. J'ai un excellent ami, les actionnaires avaient mis déjà suffisamment d'argent et ne voulaient plus en mettre, et j'ai un excellent ami qui s'appelle Jean-Claude Darmon, que j'interroge, et qui me dit, écoute Alain, si tu as besoin d'1,5 million d'euros, tu viens te servir à Paris, je te fais un chèque, tu rentres à Saint-Étienne et tu continues, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, un de mes amis stéphanois me dit, écoute, il y a un garçon qui rêve de rentrer à tes côtés, veut te soutenir, aimerait s'occuper de la formation, il a l'argent, c'est un type de la région, pourquoi prendre un Parisien? C'est quand même très bien de prendre quelqu'un du coin. Et je me suis retrouvé donc en contact avec M. Grange, qui effectivement a accepté de mettre 1,5 million d'euros pour 33% du capital du club, hein, c'était quand même pas neutre. Et puis, de discussion en discussion, nous avons décidé de confirmer sa venue en tant qu'actionnaire. J'annonce à la presse qu'un actionnaire va venir le soir du match de Niort. J'officialiserai cette démarche. Et le matin même, je reçois un coup de téléphone de ce même monsieur Grange qui me dit, voilà, je suis toujours disposé à mettre 1,5 million d'euros, il n'y a pas de problème, mais à une condition, c'est que je prenne la présidence. Je pique une colère monumentale et je lui dis, dehors, il n'en est pas question. J'appelle d'une part Guy Lavaux, qui était mon frère d'armes dans cette opération à Saint-Étienne, actionnaire magnifique, et puis Alexandre. Et les deux me disent, écoute Alain, il te propose la présidence du conseil de surveillance. Tu as quand même été secoué par ces 3 dernières années. Prends un peu de recul, tu resteras au club et ça se passera très bien. Et c'est là ma faute terrible. Donc, le soir de du match de New York, je donne une conférence de presse et j'annonce que je prends la présidence du conseil de surveillance. En clair, sur un putsch, je suis viré. Il faut comprendre ça. Et donc, M. Grange devient président. Je reste au club, je détermine de rester quelques mois pour le préparer, lui expliquer le mode de fonctionnement du club. Une semaine plus tard, il arrive dans mon bureau en me disant, écoute, moi j'en ai marre, à chaque fois que j'arrive en bas dans la cour et que je veux rentrer avec ma voiture, on me dit qui êtes-vous, et je réponds, je suis le nouveau président du club, et on me répond, non, le président c'est Bompard, et il est déjà au bureau. Donc à partir de là, moi tu comprends, pour moi c'est insupportable, je n'ai pas d'autorité, tout le monde ne connaît que toi, alors donc il faut que tu t'en ailles, parce que sinon ça ne peut pas marcher. Et bien j'ai pris ma clique et ma claque, et je me suis tiré, et ça s'est arrêté comme ça. C'est pour moi, si j'ai une seule personnalité, mais véritablement jusqu'à mon dernier souffle que je vomirais, c'est ce personnage.
D'accord, voilà. D'accord. Alors à l'époque où donc vous étiez donc où certains acteurs s'étaient intéressés au club, on avait mentionné les noms de Patrick Chen, de Francis Gray. Donc est-ce que vous les aviez rencontrés
Oui, je les ai rencontrés, oui. Ben, ça fait partie des pitreries qu'on rencontre dans une vie.
Quoi. D'accord. Alors, vous n'aviez pas retenu également, à l'époque, le projet de Bernard Caiazzo, qui avait eu d'ailleurs, à votre égard, des propos fort discourtois. Pour quelle raison vous n'aviez pas retenu
Mais je ne le voulais pas. Je ne le voulais pas.
D'accord.
Si vous voulez, Caiazzo est arrivé dans un deuxième temps.
Oui, dans un deuxième temps. Oui.
Voilà. Mais je n'ai pas négocié au départ avec Caiazzo. J'ai négocié avec Luc Dayan qui devait trouver des partenaires. Parce qu'en définitive, pourquoi sont-ils arrivés, tous ces braves gens? C'est parce que je n'ai eu de cesse de faire payer à Grange sa trahison. Et qu'à partir de là, avec mes amis actionnaires, on a dit jamais ce type n'aura ce club. D'accord. Et on a décidé de vendre, et on a dit, si on récupère nos billes, à partir de là, le club partira dans d'autres mains, mais de toute façon, ce ne peut pas être pire que Grange. Hein.
Alors par rapport à Bernard Caiazzo, on a retrouvé une déclaration qui nous a fait un petit peu sourire dans Le Parisien en avril 2003, où vous disiez, ce Caiazzo, c'est un mélange de Benny Hill et de Bernard Kouchner, il fait dans le comique et l'humanitaire à la fois. Alors là, la formule est amusante, mais donc, est-ce que 7 ans plus tard, c'est toujours votre sentiment? Bon, vous avez dit que vous l'avez rencontré récemment parce qu'il vous avait invité, vous avez honoré son invitation. Avec le recul, quel regard vous avez sur le personnage Bernard Caiazzo?
Écoutez, moi, j'ai décidé, le jour où j'ai quitté Saint-Étienne, de ne jamais me prononcer sur mes successeurs. C'est une question de courtoisie élémentaire. Sachez que j'aime trop ce club pour qu'une ligne concernant mes successeurs dirigeants aujourd'hui puisse nuire à ce club.
D'accord.
Donc, je ne dirai jamais rien contre eux ou sur eux.
D'accord. Donc, du coup, certaines questions vont automatiquement sauter parce que justement, des internautes vous deux étaient curieux de savoir ce que vous pensiez des dirigeants actuels et si en deux mots vous pouviez définir les qualités, les défauts de chacun d'eux. Donc, vous voulez pas vous prononcer en clair.
Je crois que non.
D'accord. Alors, Alain Bompard, êtes-vous encore en contact avec des anciens joueurs ou des anciens entraîneurs de l'AS Saint-Étienne aujourd'hui?
Plein d'anciens joueurs, plein de supporters, plein de Stéphanois, et comme entraîneur, un seul, vraiment, c'est Frédéric Antonetti que j'ai toutes les semaines régulièrement.
D'accord. Alors, restez-vous attentif à la vie du club? Est-ce que, en clair, vous suivez toujours les résultats de Saint-Té? Et si c'est le cas, est-ce que c'est avec un petit pincement au cœur, avec des regrets, avec amour, tout simplement? Donc, en clair, est-ce que vous vibrez toujours pour ce club au fond de vous? Ou est-ce que vous avez tourné la page et que maintenant, c'est Arles-Avignon qui attire votre attention?
Écoutez, aujourd'hui, imaginez simplement que je n'ai rien à vendre. Si je vous dis que ce club, c'était ma passion, et c'est ma passion, et ça restera jusqu'à mon dernier souffle, ma passion, que j'ai aimé ses supporters comme jamais peu de gens les aimeront, ça a été pour moi quelque chose d'unique dans ma vie, et alors que ça fait maintenant bientôt 6 ans que je m'en suis allé, je n'ai jamais manqué un match de l'ASS et je vibre à chaque instant parce que c'est indélébile. Vous savez, pendant ces années, les supporters, j'ai eu des hauts, des bas, il y a quelques questions qui me font un peu de peine, mais globalement, je peux vous dire que je me suis bien comporté avec eux.
D'accord.